Un écrivain blanc, petit-fils d'esclavagiste, peut-il se glisser dans la peau d'un esclave? William Styron, pourtant encouragé par James Baldwin, avait-il le droit d'écrire les confessions de Nat Turner?
De vive voix.
Chantal Laureau.
Bonjour Melika Abdelmoumen.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. Vous êtes née à Chicoutimi au Québec,
oui,
d'un père immigré tunisien et d'une mère québécoise d'origine bretonne. Je le précise parce que la question de l'identité est au cœur de votre dernier livre, Baldwin, Styron et moi, publié aux éditions Mémoires d'Encrier. Alors c'est un essai autobiographique écrit en mode poupée russe. Une histoire en cache une autre, qui elle-même en cache une troisième, et ainsi de suite. Pourquoi avez-vous choisi cette construction de nous balader à travers les continents, les lieux, les époques, de mêler votre histoire personnelle à cette amitié aussi improbable qu'irréductible entre James Baldwin et William Styron?
En fait, tout ça est parti d'un article dans une revue qui s'appelle Spirale, qui faisait un numéro spécial sur l'appropriation culturelle et qui m'avait demandé un article. Et j'arrivais pas à répondre à la commande en me penchant seulement sur l'actualité très récente du Québec autour des pièces de Robert Lepage qui s'appellent Slave et Kanata. Il y a eu toute une histoire et tout un scandale, une polémique autour de ces deux pièces et j'ai eu envie de réfléchir avec plus de recul. Et je me suis, après m'être un peu arraché les cheveux pendant un certain nombre de semaines, je me suis rappelé de l'histoire de Styron et Baldwin sur laquelle j'avais lu beaucoup quelques années avant. Et donc, je suis partie de ça pour d'abord faire cet article. Et petit à petit, c'est devenu une pièce de théâtre et ensuite un essai. Donc peut-être que ça explique un peu le cheminement. Et au départ, c'était beaucoup plus axé sur leur amitié à eux. Et c'est petit à petit que dans le travail sur la pièce de théâtre, qui finalement est devenue un livre, on m'a demandé, mais toi, raconte-nous comment ça t'a affecté toi dans ton rapport à ton identité, dans ton rapport à l'actualité, dans ton rapport à la politique. Et donc, ça s'est construit de cette manière-là. Et par ailleurs, de manière assez spontanée, cette espèce de voyage entre les pays et les époques, c'est quelque chose qui me vient très spontanément, notamment parce que j'ai moi-même bougé ces dernières années, donc je ne peux plus penser de manière aussi locale, on va dire,
alors vous
que
ça
a déjà été le cas.
Alors, vous écrivez joliment « Je suis allée à la rencontre de James Baldwin, je ne m'en suis toujours pas remise ». Pourquoi les textes de Baldwin, quand vous l'avez découvert, vous étiez à Lyon à l'époque, en France, ont-ils à ce point résonné en vous?
Pour énormément de raisons. D'une part, pour les raisons qui font que Baldwin touche énormément de gens aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un aspect un peu atemporel dans sa manière de voir les luttes contre le racisme, la discrimination et le rejet. Mais de manière plus particulière, j'étais dans une période où ça se passait pas très bien. Mon séjour à Lyon, à ce moment-là, j'ai vécu 12 ans, puis c'était une période où ça allait pas. Et je suis tombée sur une de ses nouvelles où il raconte, et plusieurs de ses essais, en fait, le thème revient plusieurs fois du fait que les Arabes en France ont le même rôle que les Afro-Américains en Amérique. Et le parallèle qu'il faisait entre les deux m'a vraiment interpellée, puisque je m'appelle Abdelmoumen et que je vivais en France entre 2005 et 2017, qui n'était pas une période facile, facile pour porter ce nom de famille. Là.
C'était l'époque des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan. L'époque aussi où on parlait du délit de solidarité à l'égard de ceux qui aidaient les migrants. Et vous aidiez les Roms.
Oui. Absolument. Il y avait ça, exactement, ce discours-là. Il y avait aussi l'expression de Nicolas Sarkozy qui m'avait vraiment traumatisée, qui était ce qu'il appelait les musulmans d'apparence. Qu'un chef d'État puisse parler de cette façon-là m'avait beaucoup choquée. Bref, donc il y avait tout ça et Baldwin est un petit peu venu répondre à ça. Notamment, il y a une phrase de lui que je cite dans le livre quand il dit « On a l'impression qu'on vit la pire peine de l'histoire de l'humanité et soudain, on ouvre un livre ». Et tout à coup, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul. Donc, c'est ce qui s'est passé, en quelque sorte.
Vous parlez, je cite, d'un sentiment puissant, étonnant, d'identification, à tel point qu'on a presque l'impression, en entrant dans ces textes, d'entrer dans son corps, non pas à sa place, mais avec lui. C'était la première fois que vous éprouviez ce sentiment d'osmose en lisant un auteur ?
Oui, ça m'est arrivé une autre fois avec un auteur français qui s'appelle Serge Dubrovski, quand je faisais ma thèse sur l'autofiction. Donc, je suis entrée dans l'œuvre de Dubrovski, ça m'a fait un peu le même effet. Dubrovski qui parlait de la réalité d'être un juif qui avait dû porter l'étoile jaune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je dirais que c'est avec ces deux-là que j'ai ressenti de la manière la plus puissante cette chose-là. Mais c'est même s'il y a beaucoup d'auteurs que j'admire, qui m'ont nourri, que j'ai lu et relu, avec Baldwin et avec Dubrovski, c'est particulier.
C'est alors, dans ce recueil de nouvelles qui vous a ouvert sur l'œuvre de Baldwin, dans Face à l'homme blanc, expliquez-vous, il y a dans chacune des nouvelles l'exploration d'une altérité, parfois même radicale. Dans chacune des nouvelles, l'empathie, l'effort de se mettre à la place de l'autre, l'autre femme, l'autre blanc, l'autre arabe, l'autre raciste. Ce thème de l'identification et de l'altérité, enfin ces deux thèmes, c'est ça que vous retenez en premier lieu de l'œuvre de Baldwin?
C'est ce qui m'a d'abord frappée, parce que c'est sûr qu'après, au fil des années de lecture et des recherches, j'ai abordé ou j'ai remarqué d'autres aspects comme l'engagement et toutes les questions politiques chez Baldwin qui sont très importantes. Mais c'est sûr que ça, c'était assez frappant. Je pense que c'est en 2015 que j'ai commencé à lire à peu près. C'était un moment où c'était particulièrement nécessaire, cette question de l'empathie et d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, notamment dans le cas de la nouvelle où il se met à la place d'un policier raciste blanc. Il essaie d'expliquer, à travers la fiction évidemment, ce qui peut motiver ou ce qui peut faire que quelqu'un devient comme ça. Et dans le cas du policier en question, c'est ses parents qui l'ont emmené, comme on emmène un enfant dans un pique-nique, à un lynchage. Un moment qui l'a traumatisé, mais à partir duquel il s'est construit, ce qui fait qu'il est devenu un raciste policier blanc. Et donc, je trouvais ça vraiment intéressant, cette manière de sortir de la morale pour essayer de comprendre autrement l'autre, et même l'autre qu'on déteste. Et puis, c'était une époque aussi en France, rappelez-vous, où quand on essayait de comprendre ce qui avait pu faire que les auteurs des attentats étaient devenus ce qu'ils étaient devenus, et que des sociologues ou des philosophes avaient essayé de se pencher là-dessus, Manuel Valls avait eu la phrase expliquer, c'est excuser. Donc, c'était un moment particulièrement tendu. Donc, je trouvais que Baldwin me soulageait ou me rassurait, me réconfortait.
On va revenir à cette volonté de se mettre à la place de l'autre, qui va indirectement être à l'origine de la polémique autour du livre de William Styron, Les Confessions de Nat Turner. Mais d'abord, on va écouter James Baldwin, invité de Pierre Desgroupes pour son livre Les Élus du Seigneur. C'est un extrait de l'émission Lecture pour tous, le 3 avril 1957.
Un jeune noir qui vit dans New York, qui n'a pas connu le Sud, à quel âge commence-t-il à réaliser qu'il y a un problème noir, et qu'il y a des frontières même invisibles?
Très, très jeune. Mettons entre 5 et 7 ans. Ça arrive un jour que vous êtes en train de jouer avec une fille, mettons, avec un garçon, n'importe quoi.
Oui. Bon.
Alors, il y a quelque chose qui arrive, et vous appelez d'une certaine façon, et vous traitez d'une certaine manière, ou bien c'est le parent qui vient.
Oui.
Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas jouer avec ce garçon-là parce qu'il est noir.
Oui.
À ce moment-là, on se rend compte quelque chose qu'on ne comprenne pas du tout.
Oui.
Mais on est tellement blessé, on se rend compte qu'il y a une distance. Et à partir de ce moment-là, on est dans le bain. Le drame commence à ce moment-là.
C'est émouvant d'entendre la voix de James Baldwin.
Une voix incroyable, en français en plus, parce qu'il parlait parfaitement français. Oui, ça me fait toujours le même effet. Là, j'ai un peu la chair de poule, je dois vous dire.
Pourquoi avez-vous choisi, Mélika, de retranscrire dans votre livre ce passage de l'émission de Pierre Desgroupes?
Exactement à cause de ce que Baldwin raconte, et que je pense qu'on est nombreux à avoir vécu le rejet qu'on ne comprend pas au début, parce qu'on est dans sa naïveté de « je suis comme les autres ». Et un jour, ça peut être très jeune, dans le cas de Baldwin et d'une personne noire. Dans mon cas, c'est pas forcément écrit dans mon visage que je m'appelle Abdelmoumen, mais ça a pu m'arriver à certains moments, peut-être un peu plus tard, de me rendre compte qu'il y avait un rejet, et puis de se rendre compte que c'est peut-être pour ça, mais de jamais vraiment en être certaine, de jamais vraiment pouvoir l'affirmer, et après de se dire « oh là là, est-ce que je suis paranoïaque? Est-ce que je me fais des idées ?» Mais bref, de vivre avec ces questions-là. Disons que le jour où où on en prend conscience, on ne peut pas l'oublier. Et je trouvais que c'était important de le citer, qui racontait ce moment-là où on se rend compte des raisons du rejet dont on fait l'objet socialement, disons, dans certains contextes.
Et vous citez, Melika, quelques lignes terribles extraites du livre « The American Dream and the American Negro ». James Aldwin a écrit « C'est un grand choc de voir Gary Cooper qui massacre les Indiens et de savoir que même si vous vous enflammez pour Gary Cooper, les Indiens, c'est vous.
Oui. »
En fait, James Aldwin ne se rendait pas compte qu'il faisait partie, ou du moins que les Noirs étaient assimilés au camp des Indiens, au camp des méchants.
Oui.
Il en a pris conscience bien plus tard.
Exactement. Mais il y a toute cette question-là. Je parle aussi un peu plus tard dans le livre de Jesse Wente, qui est un auteur Ojibwe du Canada, président du Conseil des arts du Canada, mais également écrivain, et qui, lui, donc, est autochtone, quelqu'un des Premières Nations. Et il raconte la même chose, le fait que lui, il s'identifiait aux héros, comme ça a pu m'arriver à moi de m'identifier à, je sais pas moi, la copine de Bruce Willis, et non au méchant terroriste arabe qui venait mettre le boxon, je sais pas comment dire, dans le film. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette question où on se rend compte un jour que les représentations de l'identité qu'on nous a collées, qu'on se serait pas forcément attribuées à nous-mêmes, sont blessantes et problématiques.
Racontez-nous ce que vous découvrez très vite, cette incroyable amitié qui a uni James Baldwin et William Styron, ces deux monuments de la littérature américaine qu'a priori tout opposait.
A priori, tous les opposaient, en effet. James Baldwin, donc auteur afro-américain engagé pour les droits civiques et petit-fils d'une esclave, et Styron, homme blanc du Sud, petit-fils d'une propriétaire d'esclave. J'ai découvert ça un peu par hasard, en fait. Quand je suis tombée dans Baldwin, pour ainsi dire, je me suis mise à lire tout ce qui me tombait sur la main. Et un jour, j'apprends qu'il avait un grand ami qui s'appelait William Styron et que je connaissais parce que je savais que c'était l'auteur du Choix de Sophie qui était... J'avais pas encore lu le livre à l'époque, mais le film m'avait vraiment marquée quand j'étais jeune. Et donc, j'ai voulu creuser, essayer de comprendre... Qu'est-ce que c'était que cette amitié? Pendant des années, ils ont continué à parler l'un de l'autre, même s'ils se sont vus moins souvent. Et après, j'ai découvert la controverse qu'il y avait eu aussi autour de ce que cette amitié avait donné. Mais c'est ça, on va y
revenir. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont tous les deux obsédés par la question raciale.
Absolument.
Alors, ils se rencontrent en 1961, ils ont autour de 35 ans.
Ouais.
Styron propose à Baldwin, qui manque d'argent, de venir s'installer pour écrire au calme dans la maison d'invité de sa propriété du Connecticut. C'est là que Baldwin écrit La prochaine fois, le feu.
Oui.
Melika Abdelmoumen, pouvez-vous nous en lire la première partie?
Avec plaisir.
Voilà, la lettre à son neveu.
C'est l'ouverture qui est assez incroyable. Tu es né là où tu es né et as été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été confronté parce que tu étais noir et pour cette seule raison. Ainsi avait-on fixé, et à jamais, pensait-on, des bornes à ton ambition. Tu étais né dans une société qui affirmait avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable. On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence, on attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité.
Baldwin et Styron vont avoir de longues conversations le soir en écoutant du jazz, musique que Baldwin adorait et qu'il a fait découvrir à son ami.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry.
Strange Fruits, Billie Holiday's dans De Vive Voix sur RFI. Nous sommes toujours avec Melika Abdelmoumen pour son livre Baldwin, Styron et moi. Melika, vous imaginez dans votre livre les dialogues qu'ont pu avoir les deux hommes pendant 3 mois. Je vais vous mettre à nouveau à contribution.
D'accord. William, comment fais-tu pour ne pas me haïr, pour ne pas tous nous haïr, tous les blancs? Comment? James, je vais te le dire. Elle s'appelait Orilla Miller. Elle était une jeune prof blanche. J'étais un gamin terrifié et ridiculement pauvre. Elle m'a pris sous son aile. Elle m'a beaucoup appris. Elle s'est battue pour moi. C'est grâce à elle que je ne réussirai jamais à détester les Blancs, même s'il m'est arrivé d'avoir envie d'en tuer un ou deux. Breaking rocks out here on the chain gang.
Breaking rocks and serving my time. Melika, on ne sait pas à quel moment William Styron, dont la grand-mère Mariana possédait donc des esclaves dans sa plantation du Sud, on ne sait pas quand il a raconté à James Baldwin sa fascination pour Nat Turner. Mais d'abord, qui était Nat Turner?
Alors, Nat Turner était un esclave qui a mené une révolte en 1831, précisément dans la région natale de Styron. Et Styron avait appris son existence par hasard dans un livre d'école. Il y avait un tout petit encadré, évidemment extrêmement biaisé. Et le jeune Styron, qui avait 10 ou 11 ans, était frappé par le fait qu'il n'y avait que cet encadré, qu'on ne leur enseignait pas aux Blancs cette histoire-là, qu'il y avait deux histoires parallèles des États-Unis. Et pendant des années, il a fait des recherches, même quand à un moment, il était en résidence d'écriture en Europe et son père lui envoyait des livres sur l'esclavage et sur Nat Turner, dont on ne sait finalement pas grand-chose, sinon qu'on a un texte, c'est les confessions de Nat Turner, donc c'est Nat Turner qui se serait confié à son avocat, qui lui-même était bon, un avocat commis d'office pro-esclavage. Donc, le statut de ce texte-là n'est pas tout à fait clair, mais Styron était fasciné, il voulait rendre sa dignité à cet homme-là, parce que pour lui, ce n'était pas un dangereux criminel, c'était un révolutionnaire qui avait voulu lutter contre les injustices que subissait son peuple. Donc, il voulait écrire là-dessus depuis longtemps. Il s'en est ouvert à Baldwin.
Et c'est Baldwin qui va convaincre Styron de raconter l'histoire de Nat Turner à la première personne. Autrement dit, il va convaincre son ami blanc de se glisser dans la peau d'un esclave noir au destin tragique. Quelle était l'idée de Baldwin en persuadant Styron d'employer le jeu, de parler à la place de Nat Turner?
Mais il était persuadé que la seule manière pour les Blancs de cesser de voir l'histoire de l'Amérique comme ces deux fils parallèles, disons, c'était d'essayer de se mettre à la place de l'autre, comme pour lui de se mettre à la place d'un Blanc, comme Baldwin l'avait déjà fait, pour sortir de cette espèce de clivage.
Alors, le livre sort en 1968. Il vaut à Styron le prix Pulitzer. Mais des critiques virulentes vont venir de la communauté noire, notamment de 10 auteurs afro-américains qui vont répondre à Styron dans un ouvrage collectif. C'est tout le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'appropriation culturelle. Que lui reproche-t-il?
Bon. Aucun ne dit que c'était interdit ou qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais on lui reproche certains biais, on lui reproche d'être malgré lui influencé par son éducation d'homme blanc du Sud, on lui reproche de pas bien faire ou de pas avoir ce qu'il faut pour le faire chez certains, mais il y a aussi d'autres personnes de la communauté afro-américaine qui, au contraire, saluent le livre. Donc, il y a vraiment une polémique, un débat autour de la possibilité ou non pour un homme comme Styron de faire l'effort d'empathie et d'imagination pour se mettre à la place d'un homme comme Nat Turner.
Et vous avez prononcé le mot débat. Il y a un débat organisé en 1968, en mai 68, par James Baldwin avec deux amis, donc William Styron et un comédien noir, aussi Davis. Et aussi Davis dit respecter le travail de William Styron, mais en même temps, lui-même regrette de ne pas avoir créé ce Nat Turner. Et il dit « Nous devons reprendre le contrôle sur nos récits, notre culture, nos symboles. » Styron, lui, invoque son honnêteté. Vous avez visionné ce débat. Qu'est-ce que vous avez pensé en visionnant ce débat?
C'est en entendant Ossie Davis, j'ai un peu trouvé la clé à ce qui, moi, me posait problème et qui faisait que j'avais beaucoup de difficultés à avoir une position tranchée. Est-ce que l'appropriation culturelle existe? Est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Toutes ces questions-là. Instinctivement, pour moi, on a le droit quand on fait de la fiction, quand on écrit. Ça fait partie de la littérature. C'est au cœur de la littérature de se mettre à la place de l'autre et parfois même de l'autre à l'intérieur de soi. Mais bref, j'arrivais pas à avoir un point de vue tranché. J'avais beaucoup de mal. Et c'est quand Ossie Davis explique, en fait, que la question, c'est pas de savoir si Styron est capable ou non d'empathie et est capable ou non de se mettre dans la peau de Nat Turner, puisque, évidemment, il l'est et il a fait son œuvre avec intégrité, dit Ossie Davis. Le problème est qui a accès aux tribunes, à la parole, à la publication, à voir sa voix entendue dans l'espace public. Et il y a une inégalité à ce niveau-là. Et c'est en fait contre ça qu'Ossie Davis en a, contre le fait que seul un blanc comme William Styron avait accès au public, à la célébrité, avait accès aussi à l'écoute des autres blancs, alors que des gens de la communauté afro-américaine n'avaient pas du tout le même statut. Et d'ailleurs, les 10 Black Writers eux-mêmes, en fait, on a la preuve qu'ils ont raison, puisque leur livre est complètement tombé dans l'oubli. J'ai mis des mois à le trouver. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait différent, mais à l'époque, ils ont été complètement mis de côté très rapidement.
Et ce qui est troublant et passionnant à la fois dans ce débat et dans cette polémique, c'est que les deux camps, finalement, ont raison.
Oui. Mais c'est la phrase de James Baldwin quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, OK, je ne suis pas seule sur cette terre. Donc, il présente les deux interlocuteurs qui sont ses deux amis. Il dit la chose la plus importante à retenir, c'est qu'ils ont tous les deux raison. Donc, on peut être d'avis opposés et avoir raison tous les deux. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce genre de choses.
Et alors, aujourd'hui, en plein mouvement woke, vous pensez qu'il y aurait la même polémique, peut-être même plus grande encore, si un livre comme Les Confessions de Nat Turner, écrit à la première personne, par un écrivain blanc, sortait aujourd'hui?
Oui, je pense qu'il y aurait un débat. Je pense qu'il y aurait peut-être les 10 Black Writers, seulement ils auraient beaucoup plus accès. On les entendrait, Dieu merci, beaucoup plus que c'était le cas à l'époque. Oui, il y aurait sans doute de ça, parce qu'on a l'impression que... disons que ce qui est mis de l'avant et ce qu'on voit le plus sur la scène publique, c'est les points de vue extrêmes. Moi, personnellement, j'ai rien contre les woke... je peux avoir des désaccords avec certaines personnes qui se disent woke, je peux être la woke de quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire? Mais disons que les revendications comme celles des 10 Black Writers ou d'Ossie Davis, je pense qu'il faut les entendre. Et je pense que quand on est quelqu'un comme William Styron, oui, on a le droit d'écrire ce qu'on veut, mais il faut accepter d'en débattre et il faut accepter la réception, il faut accepter les malentendus qui peuvent venir avec. Et donc oui, je pense qu'il y aurait un débat, mais probablement que les deux parties auraient... plus de chances d'être entendues. Peut-être pas tout à fait à égalité, mais je pense qu'on pourrait pas les enfouir dans le silence aussi facilement. Aujourd'hui, les 10 Black Writers, et c'est tant mieux.
Vous en avez parlé tout à l'heure quand vous étiez en France. Vous y avez passé 12 ans et vous, vous avez souffert des crispations identitaires. Vous êtes rentrée au Québec après donc ces 12 années en France. Et là, vous avez déchanté. Oui. Votre Québec natal n'existait plus. Les politiciens faisaient de l'immigration un enjeu électoral. Et vous étiez désormais considérée comme une autrice de la diversité alors que vous êtes québécoise et que votre identité ne se réduit évidemment pas à la couleur de votre peau ni à votre nom. Est-ce que vous en avez été amère, chagrinée ou indignée?
Tout ça à la fois. C'est-à-dire que je me suis rendu compte déjà que le Québec qui me manquait n'a peut-être jamais existé. Je pense que c'est de la nostalgie de l'expatrié qui fait de sa terre natale peut-être quelque chose qui n'a jamais tout à fait existé. Je ne le saurai jamais parce que je ne peux pas retourner dans le passé. Mais c'est sûr que cette assignation identitaire-là qu'on accole ou qu'on impose aux gens comme moi, donc en général les enfants d'immigrés, mais qui sont eux-mêmes québécois, je trouve ça extrêmement difficile à vivre. J'essaie de me battre contre. Et l'assignation, cette assignation-là, elle vient nous isoler ou nous faire de nous des Québécois de deuxième zone ou de deuxième catégorie, je ne sais pas comment appeler ça exactement, et c'est extrêmement difficile à vivre. Et donc, la raison pour laquelle je disais que je n'ai rien contre les woke, c'est que je suis d'accord avec eux dans leur combat pour lutter contre cette exclusion-là qui existe. Donc après, comme je disais, je peux être, du fait que je suis pas de la même génération que certains, on peut avoir des désaccords sur certaines choses, mais pour d'autres, je suis woke, pour certains, je le suis pas assez. Mais en tout cas, le plus important, je pense, dans tout ça, c'est de mettre de côté ces détails et d'essayer de s'unir contre ce genre de rejet, en fait.
Oui. Vous êtes partagée par rapport à la question de la discrimination positive.
Oui.
Pourquoi?
En fait, d'un côté, je vois que ça a des effets positifs. Je vois que moi, j'accède à un poste, je dirige la revue Lettres québécoises. Je suis pas certaine qu'il y a 20 ans, cette chose aurait été imaginable. Mais en même temps, moi, dans mon esprit, c'était censé être transitoire et rétablir un équilibre qui ferait qu'on n'en aurait plus besoin. Et là, j'ai l'impression que c'est devenu que le palliatif ou la mesure transitoire est devenue permanente. Et c'est là que je trouve ça plus compliqué. Ou que, par exemple, il y a une espèce de comment dire, j'ai envie de dire une mode, ça c'est dur, mais c'est ça, de mode de la diversité où on devient un peu des trophées, hein, comme on dit en anglais, des tokens. Donc on devient on est utilisé pour montrer que tel organisme ou que telle compagnie est ouverte à la diversité. Donc ça crée un malaise chez les personnes issues de la diversité, comme on dit. Donc c'est une situation extrêmement compliquée, d'où mon malaise, c'est-à-dire que je trouve qu'on donne parfois des réponses de surface à des questions très complexes. Et je le vois là, parce que j'ai eu beaucoup à aller dans des écoles, soit des lycées ou des écoles secondaires récemment pour ce livre-là ou mon précédent. Et j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt par là qu'il faut passer. Et donc, il faut être patient. Ça va prendre du temps.
Vous racontez une anecdote incroyable. Lors de votre embauche dans une maison d'édition, on vous demande de remplir un formulaire et vous devez répondre à la question « Faites-vous partie des minorités visibles ?»
Oui. Et un peu comme James Baldwin, qui ne savait pas qu'il était noir, je me suis demandé « Mais est-ce que j'en fais partie ?» Et donc, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire « minorité visible ». Et parmi les catégories, il y avait cette catégorie un peu étrange, donc dont la personne ou un de ses parents est un maghrébin qui n'a pas la peau blanche. Et donc là, je me suis évidemment, malheureusement, il n'y avait pas de nuancier pour coller mon bras pour savoir à partir de quand on arrête d'avoir la peau blanche. Je me doutais bien que j'imagine je ne suis pas considérée comme blanche, mais ça m'a jetée dans des abîmes de perplexité. Et donc, on avait le droit de ne pas répondre, refuse de répondre. Donc, j'ai refusé de répondre, non pas par colère, mais par perplexité, parce que je savais plus comment me définir par rapport à cette catégorie.
On va terminer avec Baldwin, ou on va revenir à Baldwin pour terminer. Dans votre livre, vous regrettez que l'œuvre de Baldwin soit quelque peu tombée dans l'oubli avant que le réalisateur haïtien Raoul Peck ne la fasse renaître grâce à son documentaire « I'm not your Negro ». En quoi ce film jette-t-il un pont entre les combats de Baldwin et le mouvement Black Lives Matter?
Ah, ben, il en jette énormément. C'est super intéressant parce que Raoul Peck, ce qu'il fait, c'est qu'il montre en fait quels étaient les combats de Baldwin à l'époque, et il montre à la fois que c'est pas terminé, qu'il faut continuer, mais en même temps qu'il y a quand même eu des choses qui ont changé. Donc j'ai trouvé qu'il jetait un pont de manière extrêmement nuancée entre les deux époques. Et juste pour les auditeurs et les auditrices, j'ai rencontré à Paris, ici, il y a 2 jours, il y a un collectif James Baldwin France qui existe, qui a été fondé en 93 par un acteur et metteur en scène qui s'appelle Samuel Legitimus. Ils ont un site web, j'invite les auditeurs et auditrices à y aller. Et on discutait justement du fait que Raoul Peck a beaucoup aidé à ramener sur la sellette l'œuvre de Baldwin en faisant le lien avec Black Lives Matter, alors que au fond, depuis des années déjà, elle est brûlante d'actualité, mais en fait, je pense qu'il fallait que quelqu'un la remette dans la lumière, et Raoul Peck a réussi à le faire, donc tant mieux pour nous tous.
Merci beaucoup Melika Abdelmoumen d'avoir été l'invitée de Deux Vives Voix. J'invite vivement nos auditeurs à lire Baldwin, Styron et moi, publié chez Mémoire d'Encrier. Merci à Guillaume Ploquin à la réalisation et à Cécile Lavolo à la programmation. À bientôt et portez-vous bien.